Vous pouvez prendre place et prendre vos Bibles pour les ouvrir dans le livre des psaumes, au psaume 127. Cantique des montées de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et nous allons lire deux autres textes qui font un peu écho à ce psaume ou qui nous permettront de comprendre certaines parties de ce psaume. Et je vous invite à aller dans le livre suivant, dans le livre des Proverbes, au chapitre 10 et au verset 22. Un proverbe qui dit ceci, Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Et nous lisons un troisième texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. Matthieu 6, et nous lisons à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? » Ou « Que boirons-nous ? » Ou « De quoi serons-nous vêtus ? » Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons lu « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Saint-Esprit n'agit en nous, nous lisons la Bible en vain. C'est pourquoi nous implorons Dieu d'agir en nous par son esprit ce matin en ouvrant les Écritures saintes. Le psaume 127, est-ce que c'est un cantique de Salomon ou pour Salomon? Un cantique pour Salomon qui serait écrit par son père David, comme certains le comprennent. En fait, je n'ai pas assez d'érudition hébraïque pour trancher, pour vous dire c'est de ou c'est pour. Mais je crois qu'il est effectivement en lien avec Salomon. Salomon a bâti la maison de l'Éternel, le temple. Et ce thème de la construction est clairement présent dans ce psaume. Salomon a fortifié plusieurs villes dans le but de vivre dans la sécurité. Lors de sa naissance, sa maman l'a appelé Salomon et il fut remis entre les mains du prophète Nathan. Et à ce moment-là, il est appelé Yedidia. Yedidia qui veut dire « bien-aimé de l'Éternel ». Et au verset 2 du psaume 127, nous retrouvons ce terme « Yedid », « bien-aimé ». Nous pouvons donc lire le verset 2 « Il en donne autant à Salomon pendant qu'il dort. » Et vous vous souvenez sûrement que Salomon a eu un rêve où Dieu lui demandait ce qu'il désirait. Salomon a demandé, souvenez ce qu'il a demandé ? La sagesse et la connaissance pour conduire le peuple de Dieu, exactement. Et Dieu lui promet également la richesse et la gloire. Tout cela s'est passé pendant la nuit, pendant que Salomon dormait. Salomon est lui-même un héritage pour son père et pour ses fils. Après lui, ils le seront aussi pour lui. Nous voyons donc que la vie de Salomon touche en fait tous les thèmes de ce psaume, comme nos vies d'ailleurs, comme chacune de nos vies. Nous sommes dans les cantiques des montées depuis le psaume 120. Ces chants qui accompagnaient ceux qui allaient à Jérusalem. le pèlerin en voyage vers sa destination se rappelle par ce psaume que la prospérité et la sécurité sont des dons de Dieu. Le pèlerin qui se dirige vers Jérusalem se souvient par le psaume 127, le fondement de toute action afin qu'elle ne soit pas vaine. Sans la bénédiction de Dieu, rien ne peut se faire et se vivre. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Le fondement du pèlerin pour ne pas œuvrer en vain ». Nous verrons premièrement et principalement trois domaines qui ont le même fondement, la même promesse et le même avertissement. Ces trois domaines décrivent d'ailleurs l'occupation de toute créature humaine. Et ensuite, nous nous arrêterons quelques instants sur l'illustration vue sous trois angles qui souligne que Dieu est la source de toute bénédiction. Commençons donc par ces trois domaines. Que ce soit la construction du temple ou de sa maison, que ce soit la protection du lieu de vie sociale, la ville, ou que ce soit le travail personnel, tout est vain si Dieu est absent. Tout est vain. Alors que si l'Éternel est présent, rien n'est vain. Et il vaut la peine de s'y investir, car Dieu n'est pas avare pour ses bien-aimés. Le Saint-Esprit, par Paul d'ailleurs, le rappelle dans un texte du Nouveau Testament que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15, les versets 57-58, qui dit ceci: « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » C'est le message en fait des deux premiers versets du psaume 127 que nous avons médité en trois parties, que j'intitule « Construire, protéger, travailler ». Mais avant de nous lancer dans cette réflexion, relisons ces deux versets pour en être vraiment imprégnés. Donc je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pour vous y référer. Psaume 127, Cantique des montées de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Alors, comme je l'ai dit, on prendra en trois parties. Nous commencerons par cette partie de la construction. Et pour bien saisir cette illustration, laissez-moi souligner deux aspects qui concernent la construction d'une maison. Après, si vous voulez des éléments supplémentaires, il y a des personnes compétentes qui peuvent vous y conduire. Mais le premier concerne le propriétaire, celui qui veut construire une maison. On a pour habitude de dire que c'est Dupont qui construit sa maison, même s'il ne touche pas un seul outil durant tous ses travaux. Vous avez déjà entendu ça? C'est tel et tel qui construit sa maison, mais il ne touche pas un seul outil. Car c'est lui qui en est le propriétaire et qui a par exemple mandaté un architecte, il s'est intéressé aux différentes étapes de construction. Ce sont bien les architectes, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les électriciens, les monteurs sanitaires, les chauffagistes, enfin j'en passe, qui ont travaillé à la construction de la maison. Toutes ces personnes sont en fait au service du propriétaire et sont soumises à sa volonté. Et s'il veut que quelque chose soit changé, l'architecte et les entreprises concernées le font avec entrain, car c'est leur travail. Ce premier aspect permet de comprendre que le psaume ne dit pas que nous regardons Dieu construire, mais qu'il doit être vu comme le propriétaire de tout ce que nous construisons. Saisissez. Nous ne sommes pas plus que l'architecte à son service. Sinon, notre travail est vain. Deuxième aspect concerne le terrain sur lequel nous bâtissons. Il doit appartenir à celui qui construit et il doit recevoir l'autorisation de construire. Parce que si quelqu'un bâtit sur un terrain qui ne lui appartient pas ou sans autorisation, il se verra dans l'obligation de détruire ce qu'il a construit. Tout son travail sera vain et inutile. Pire encore, il aura perdu de l'argent et beaucoup de temps. À qui appartient la planète sur laquelle vous êtes? À qui appartient l'oxygène que vous respirez? À qui appartient tout ce dont nous avons besoin pour vivre? Qui donne l'autorisation de construire? Qui peut détruire en un instant, par un tremblement de terre, par la terre qui s'ouvre même, ou le feu qui tombe du ciel, les inondations, l'incendie, le glissement de terrain, la guerre, ou même, pour parler d'une entreprise par exemple, de donner l'idée d'entrer une commande informatique qui efface toutes les données d'une entreprise? C'est arrivé dernièrement, je l'ai lu dans les informations. Qui? Eh bien, c'est l'Éternel qui domine sur toute sa création, comme le décrit si bien le psaume 104. Ce deuxième aspect nous permet de comprendre que le psaume indique également l'importance de l'approbation du propriétaire ultime de toute chose. Sinon, notre travail est vain. Si Dieu ne l'approuve pas, notre travail est vain. Le mot utilisé en hébreu pour maison, hein, si l'Éternel ne bâtit la maison, peut désigner une habitation ordinaire, ou un palais, ou le temple. Mais le même mot peut aussi être utilisé pour une famille ou une dynastie. D'ailleurs, comme en français. Hein, c'est la maison des Bourbons, par exemple. Ça signifie donc que le psaume ne parle pas simplement de construction d'habitation, mais un enseignement beaucoup plus vaste. Alors prenons quelques aspects justement qu'il touche. Par exemple, en parlant du temple, il touche à la construction de notre vie spirituelle et par extension à la construction de l'Église. Est-ce que Dieu est le propriétaire qui est la référence pour la construction de notre vie spirituelle ou de notre Église? Est-ce que Dieu approuve ce que je vis dans ma piété ou qui est vécu dans l'Église? Alors comment savoir si Dieu est la référence de ce que je vis ou de ce qui est vécu? Eh bien simplement en vérifiant si ce qui est vécu est conforme à la parole de Dieu, si tout ce que la parole demande est vécu et que rien n'est ajouté ou retranché. En prenant le palais comme signification pour la maison, cela touche à la construction de l'autorité civile. Dieu est-il la référence? Approuve-t-il ce qui est vécu? La conférence de l'Ascension de jeudi nous indique que malheureusement, souvent ce n'est pas le cas. Alors redoublons de prières pour nos autorités et encourageons les chrétiens qui s'y engagent. Si la signification du terme maison indique la famille, cela touche à la cellule de base de la société, le foyer avec un homme, une femme unis par une alliance divine et des enfants qui sont confiés par le Créateur à ses parents. Dieu est-il la référence de notre foyer? Est-ce que sa parole pose les balises dans tout ce que nous faisons? Ou est-ce que nous cherchons à jouer à l'architecte qui ne tient pas compte du propriétaire, qui dans ce cas d'ailleurs est bien plus compétent, car il pense mieux savoir que Dieu? Et cela peut être dans différents domaines, mais peut-être aussi tout particulièrement dans l'éducation. Est-ce que Dieu approuve tout ce qui est vécu dans notre foyer? Est-ce qu'il l'approuve chaque instant de ce que nous vivons? Est-ce qu'il l'approuve? Je dis bien tout chaque instant, parce que tout ce que nous vivons participe à la construction. C'est vrai que certaines occupations ne font pas avancer le chantier, ou c'est vrai même que d'autres le détruisent carrément. C'est pourquoi il est important de se référer à Dieu pour savoir s'il approuve ce que nous vivons. Est-ce que Dieu approuve ce que je vis? Et vous savez, Dieu approuve beaucoup de choses que nous aimons vivre. Il semble qu'avec ces quelques considérations, nous avons pu mieux saisir ce que signifie « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et comprendre à quel domaine cela s'applique. Continuons donc avec la notion de protection. « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Vous pouvez mettre toutes les troupes d'élite que vous voulez, l'armement le plus sophistiqué et le plus efficace, avec des avions de combat, des équipements ultra élaborés, voire même complètement invisibles. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui garde veille en vain. Pourquoi? Non mais attendez, avec cet arsenal, pourquoi est-ce que ce serait en vain? Parce que pour Dieu, la meilleure armée du monde est semblable à des brins d'herbe et en un seul souffle, il les écarte. Dieu est beaucoup plus puissant, même que la plus grande puissance que nous pourrions former. Pour être protégé, il faut être du côté du plus puissant. Pour être protégé, il faut être du côté du plus puissant. Sodome et Gomorre pouvaient avoir la plus puissante armée du monde. Mais lorsque Dieu a décidé du jugement, rien ni personne ne pouvait protéger ces villes qui ont disparu de la surface de la terre. Comme pour la construction tout à l'heure, cela ne signifie pas, par exemple, qu'il ne faut pas de sécurité civile. Car d'autres textes dans la parole de Dieu, et particulièrement Romains 13 dans le Nouveau Testament, soulignent que c'est Dieu qui a institué les autorités civiles. Et si cette image nous permet de réfléchir à une sécurité physique, nous pouvons aller plus loin et réfléchir aussi à une sécurité spirituelle. Il est important et utile dans une église d'exprimer clairement la doctrine biblique. Nous pouvons avoir des confessions de foi, veiller à ne pas laisser des loups ravisseurs apportant de fausses doctrines enseigner et séduire des personnes. Mais si l'Éternel ne garde l'église locale, celui qui la garde veille en vain. En vain. Vous savez ce que ça veut dire en vain? En vain signifie que c'est inutile, dépourvu de sens, néant, creux, futile, superficiel, instable, illusoire, vide, trompeur, inefficace, dérisoire. C'est ça, quelque chose de vain. Mais pour l'église locale, par exemple, qui reste fidèle au plan de garde donné par l'Éternel dans sa parole, soyons-en certains, il la gardera, c'est sûr. Que Dieu nous aide à rester fidèles en toutes choses. J'espère que nous avons bien compris que chercher une protection ailleurs que du côté du plus puissant et mettre autre chose que ce qu'il demande pour garder quoi que ce soit, c'est en vain, c'est inutile. Bien que le Seigneur soit le garant de la garde de notre ville et mettons en place sa stratégie de garde. Après la construction, la protection, il reste un domaine, le travail. Comme un verset étonnant, le verset 2. Ce psaume dit au verset 2 que c'est vain de se lever tôt, de se coucher tard et de travailler dur. Est-ce que ça signifie que ce texte nous encourage à ne pas travailler, à dormir, à la paresse? C'est le danger de sortir un texte de son contexte. Mais en fait, le verset 2 est totalement lié au verset 1 qui indique que ce n'est pas l'œuvre de l'homme qui est remise en question, mais la place de Dieu dans cette œuvre. Comprenez la différence? Ce n'est pas l'œuvre de l'homme qui est remise en question, c'est la place de Dieu dans cette œuvre qui est remise en question. Travailler est juste et bon. Nous avons de multiples textes bibliques qui indiquent que le travail est juste et bon, non seulement recommandé, mais obligatoire. Car nous avons été créés pour travailler, selon Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous avons été créés pour être actifs, pour travailler et pas pour dormir. Vous trouvez plusieurs textes dans le livre des Proverbes qui parlent des paresseux et jamais vous ne trouverez un texte qui fait l'éloge du paresseux. C'est toujours exprimé comme un égarement. Dans le Nouveau Testament, pour ne citer qu'un texte, lisons ce que Paul dit aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. » Nous avons donc bien compris que le travail n'est pas le problème La Bible ne se contredit pas. Donc le psaume 127, verset 2, ne peut pas vouloir dire qu'il ne faut pas travailler. Mais alors comment comprendre ce verset 2 ? Qu'est-ce qui cloche ? Eh bien, j'ai trouvé le texte d'Agée utile pour nous aider à comprendre. Le prophète Agée a dit quelque chose d'utile pour comprendre, qui illustre en fait ce que ce verset 2 ici indique. Agée, chapitre 1. Vous pouvez regarder dans vos Bibles, nous reviendrons dans le psaume 127, mais vous pouvez aller dans le livre de Agée. C'est le troisième avant-dernier prophète avant le Nouveau Testament. Donc Agée, Zacharie, Malachie. Au chapitre 1er du livre d'Agée, versets 3 à 11. Donc c'est l'illustration de ce verset 2. Hein. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Hein. Donc Agée 1, verset 3. Alors la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est en ruine ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi ? Oracle de l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur tout ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. En vain. Même si nous travaillons jour et nuit, cela peut être en vain si l'Éternel retient la pluie. Ce texte fait-il une fois un reproche au peuple pour son travail ? Non. Il indique simplement que son travail rapporte peu et qu'il est vain en quelque sorte. Et Agée en donne la raison. Pourquoi est-ce que leur travail est vain ? Parce que vous avez oublié l'Éternel. Parce que vous avez oublié l'Éternel. Vous avez travaillé pour votre propre compte et vous n'avez pas construit la maison de l'Éternel. Si l'Éternel n'est pas mis en premier, s'il ne fait pas partie de notre histoire, de notre travail, c'est en vain que nous travaillons. En vain. C'est lui qui doit être en premier, qui doit faire partie de notre histoire et de notre travail. Alors, si nous travaillons pour l'Éternel, que nous sommes résolus et déterminés à travailler pour la gloire de Dieu par-dessus toute autre chose, nous manifestons alors que nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Et être un bien-aimé de l'Éternel Tout-Puissant, à qui tout appartient, c'est simplement extraordinaire. Être bien-aimé de celui qui donne la rosée. Et qui est le bien-aimé par excellence ? Celui à qui il a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ est le bien-aimé par excellence, et tous ceux qui sont en Christ sont des bien-aimés de Dieu. Comme nous l'avons déjà vu, notre construction n'est pas vaine, la protection est assurée, et il nous dit même qu'il nous en donne autant pendant que l'on dort que tous les efforts que nous pourrions fournir. En fait, la semence pousse pendant que l'on dort. Vous avez déjà vu ça ? Planter une graine, et puis tout à coup un matin, vous voyez que ça a poussé. Pendant que vous dormiez. Le lait et le miel se forment pendant que l'on dort. Même l'enfant est formé dans le sein de sa mère pendant que l'on dort. Adam dormait quand Dieu a créé une aide semblable à lui. Alors que il n'avait pas trouvé en cherchant parmi tous les animaux de la création. Il a fourni un grand effort quelque part. Mais c'est quand il dormait que Dieu lui a donné une aide semblable. Le peuple d'Israël dormait lorsque Dieu a fait déguerpir une armée imbattable qui affamait Jérusalem. Au point qu'ils ne savaient plus ce qu'ils allaient manger. Une nuit pendant qu'ils dormaient, cette armée qui entourait la ville a entendu un bruit de guerre et est partie déguerpie. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Matthieu 6, 31 à 34, que nous avons lu en préambule, nous invite à ne pas nous inquiéter. Et en fait, cela fait écho à ce psaume. Ce psaume nous invite à ne pas nous inquiéter. Le psaume 127 n'est pas là pour nous indiquer que nous pouvons paresser et dormir, comme Samson qui a tout perdu dans son sommeil. Il dormait aussi, lui, quand il a tout perdu. Le psaume 127.2 est là pour nous rassurer, nous encourager dans la fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu, car c'est alors que notre travail est béni, lorsque nous vivons pour lui. On ne peut pas se dire, je dors et puis il agira. Samson, il n'a pas vécu selon Dieu, il a dormi, il a tout perdu. Comme le dit Proverbe 10, 22, pour celui qui est béni de l'Éternel, il est enrichi et il n'y ajoute aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est excellente, elle est bonne et c'est ce que nous devons rechercher. Une bénédiction qui n'est pas juste pour un instant dans notre vie, mais qui est en fait des conséquences jusque dans la vie éternelle. Ce psaume est là aussi, c'est vrai, pour éviter un travail frénétique. Le bien-aimé de l'Éternel est aussi appelé à se reposer en toute confiance. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Celui qui ne fait que travailler sans compter sur l'Éternel, en fait, se prend pour l'Éternel. Un repos, c'est pas le contraire de l'effort. C'est le contraire de l'agitation. Et c'est dans ce repos-là que nous sommes appelés à nous rendre. Si la construction, la protection et le travail sont vains sans l'Éternel, ils sont bénis lorsque l'Éternel est le propriétaire, le protecteur, le pourvoyeur. Et nous œuvrons de tout notre cœur, selon nos capacités, là où il nous a placés pour son royaume et pour lui rendre gloire. Si le psaume dit que sans l'Éternel, ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut comprendre aussi qu'avec l'Éternel, cela vaut la peine. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Construction, protection, tout ce qu'il construit et ce qu'il protège n'est pas vain. Son projet de construction va réussir. C'est une œuvre de l'Éternel. Nous sommes assurés de cela. Passons maintenant à la deuxième partie de ce psaume qui en fait développe une illustration, l'illustration du don d'un enfant. Et il le développe sous trois éclairages pour souligner que c'est l'Éternel qui est la source de la vie. Relisons ces trois derniers versets du psaume 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et les fils sont un héritage, une récompense des flèches. C'est ce que le texte nous dit. Trois aspects que nous allons courtement développer. Un héritage. Un héritage est quelque chose que l'on reçoit et que l'on ne mérite pas. Et pour lequel nous n'avons rien fait. C'est un don, une grâce, une faveur. Malgré le fait que nous pensons maîtriser la reproduction humaine, personne n'est capable de donner la vie actuellement, et ne le sera jamais. Puisque le seul qui donne la vie, c'est Dieu. Chaque fécondation qui donne naissance est un don de Dieu. Si l'Éternel ne donne pas la vie, il n'y a pas de fils, il n'y a pas d'héritage. On continue avec le même thème qu'on a au début du psaume. Un héritage est quelque chose de précieux, à valoriser, à faire fructifier. Les enfants sont un don de Dieu, qui même s'ils sont accompagnés par une grande demande d'effort, c'est vrai, apporte de multiples bénédictions. Demandez par exemple à Raymond et Morissette, les aînés de notre Église, et vous comprendrez que les enfants et leurs descendants sont un héritage de l'Éternel. Un second aspect de ce don de Dieu est le fruit des entrailles qui est une récompense. La récompense. Le fruit des entrailles est une récompense. Tout fruit est une récompense, en fait. Si on pense aux fruits des arbres, par exemple, hein, lorsqu'un arbre fruitier donne du fruit, c'est une récompense. Mais le maraîcher n'a pas produit le fruit. C'est son arbre. Et le fruit a poussé tout seul en son temps. Enfin, je ne sais pas comment ça marche chez vous. Hein. Est-ce que vous avez des pommiers? Est-ce que vous allez tirer sur les fleurs pour que cela donne des pommes? Non. L'arbre donne des fruits en son temps. Et c'est un don de Dieu. Si l'Éternel n'agissait pas, il n'y aurait pas de fruit des entrailles, pas de récompense. Le fruit des entrailles est une récompense. Ce n'est pas un fardeau ou un gouffre financier comme la société aimerait nous faire croire que sont les enfants. C'est terrible quand on commence à réfléchir comme ça. Non, un enfant c'est un don de Dieu, un héritage, une récompense, une manifestation de la bénédiction de Dieu. En fait, vous êtes tous des manifestations de la bénédiction de Dieu. Puisque nous sommes tous l'enfant de quelqu'un. Et il est bon et juste d'investir tant d'énergie dans la vie de chaque enfant confié, car c'est ainsi que nous honorons le Créateur, qui les a formés et qui les confie dans sa grâce et qui agira aussi dans leur vie, afin qu'à leur tour, ils se réjouissent de l'héritage, de la récompense de l'Éternel. La poésie hébraïque, comme nous l'avons déjà vu une fois, n'est pas caractérisée par les rimes. La poésie française, on a des rimes, des pieds, enfin, etc. Tandis que la poésie hébraïque, en fait, est caractérisée par des répétitions. Et en fait, ici, nous avons un cas typique. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Nous voyons là, ici, clairement, cette notion de fils qui est un fruit. Un héritage correspond à la récompense. Et l'auteur veut souligner, mettre en valeur ces aspects qui manifestent la bonté de Dieu et l'importance de son action, sans l'action de Dieu, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de récompense. Si l'Éternel ne bâtit la maison, donc ici la famille, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Le dernier aspect concerne le don d'une descendance, va nous illustrer et souligner que c'est un grand bien d'avoir des enfants. Ce sont des flèches. Un peu drôle, hein? Des fois on dit un enfant, t'es une flèche. C'est pas tout à fait la même chose qu'on a dans ce texte. Hein? Des flèches nous amènent à reconnaître que les enfants sont un précieux soutien et une protection face aux ennemis. Les enfants seront là lorsque la vieillesse arrivera et prendra soin de leurs géniteurs s'ils sont droits. Ils sont l'assurance vieillesse pour toute personne. D'ailleurs, aujourd'hui encore, hein, c'est encore comme ça. Mais c'est vrai que c'est de façon collective. De façon collective, les enfants sont la source et le revenu des personnes âgées. Et nous voyons que c'est une grande difficulté lorsque dans un pays, il y a plus de personnes âgées que d'enfants. Le meilleur moyen pour assurer la vieillesse reste la bénédiction des enfants, qu'aucun plan économique ne pourra remplacer. Le psalmiste les compare à des flèches dans le carquois d'un homme heureux. Le nombre de flèches dans leur carquois déterminait en fait la force du guerrier. Encore fallait-il que ces flèches soient utilisées pour atteindre le but. Les flèches devraient d'ailleurs être droites et tirées dans la bonne direction. Et si le fait d'avoir des enfants était important, si important dans l'Ancien Testament, c'est parce que chaque enfant pouvait être un ascendant ou le Messie lui-même, qui avait été promis à Ève, à Abraham, à David. Et ce Messie est venu. Il est venu. C'est Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, la flèche droite qui atteint son but et terrasse tous les ennemis. C'est lui, Jésus-Christ. C'est ainsi que aujourd'hui, c'est vrai, les enfants continuent à être une bénédiction. Évidemment, c'est un héritage, une récompense, un fruit de Dieu. Mais la flèche qui remplit notre carquois face à l'ennemi de nos âmes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Même la personne célibataire ou le couple sans enfant ont leur carquois rempli de la même flèche que les familles qui les rend heureux et leur permet d'aller à la porte et de ne pas avoir honte et parler avec des ennemis. Parce que la récompense, l'héritage, la flèche que tout l'Ancien Testament annonce, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre héritage, notre récompense, notre flèche. En conclusion, rappelons-nous le début du psaume qui donne le ton et le résume en quelque sorte. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien que Dieu, dans sa grâce, nous donne de retenir cela, de le retenir. Non seulement cette phrase, mais ce que cela signifie pour nos vies, pour nos projets, pour tout ce que nous vivons. Si l'Éternel ne bâtit la maison, vous pouvez passer des milliers d'heures dans vos études, vous pouvez passer des centaines de journées dans vos projets d'entreprise, dans votre éducation familiale. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Eh bien, prions que l'Éternel soit notre propriétaire, que ce que nous vivons suive ce que lui veut et suive son approbation, que nous soyons sous sa protection. Et alors nous pourrons dire avec le psalmiste, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je vois qu'au début de ce culte, nous avons parlé de l'état perdu de l'homme, qui en fait cherche à construire sa vie sans toi, sans se préoccuper de ce que son propriétaire, celui qui l'a fait, pense et désire. Et Seigneur, nous étions de ceux-là. Et à notre honte, nous pouvons dire que nous avons encore trop souvent ce réflexe-là. Seigneur, aide-nous à saisir la profondeur et la beauté de ce psaume, qui contient des promesses extraordinaires, qui pointent vers Jésus-Christ et qui nous guident pour la vie de tous les jours. Ô Éternel, nous désirons que tu bâtisses la maison dans tout ce que nous vivons, afin que rien ne soit vain. Ô, nous te remercions parce que tu nous dis dans ta parole et tu as guidé l'apôtre Paul pour cela, pour nous aider à saisir que tout ce que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vain. Et bien que nous puissions avoir ce désir de le faire dans tout ce que nous vivons, que ce soit lorsque nous faisons à manger, que ce soit lorsque nous faisons un programme informatique, ou bien lorsque nous faisons de la comptabilité, ou encore lorsque nous réparons des machines qui sont récalcitrantes. Seigneur, nous voulons œuvrer dans ce désir ardent de te glorifier à chaque instant. C'est pour toi que nous sommes ici. C'est pour toi que nous sommes placés dans les lieux de travail, dans les lieux d'habitation, dans les familles où nous sommes placés. Et nous voulons, Seigneur, venir auprès de toi et étudier ta parole pour de plus en plus saisir ce que tu désires que nous vivions, être conformes à ce que tu nous dis, afin que nous puissions dire, l'Éternel bâtit la maison et je ne travaille pas en vain. Parce que tu en donneras alors autant à ton bien-aimé pendant qu'il dort. Sois loué, sois béni, Père. Tu es un Dieu si bon envers nous. Nous te remercions. Nous n'étions même pas là d'ailleurs lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre. Tu l'as fait même ne peut même pas dire que nous dormions, nous n'étions même pas présents. Alors qu'il a déjà tout accompli pour que nous puissions être sauvés. Merci parce que tu prends soin de nous. Aucun cheveu de notre tête ne tombe sans que tu le saches. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.